France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Pascal Légitimus, actuellement à l'affiche comme acteur et comme metteur en scène, ce qui ne l'empêche pas d'adorer la chanson. Ensemble, nous évoquerons Auteuil, Neuilly-Passy et toutes les parodies musicales des inconnus, mais aussi l'étonnante famille Légitimus, grande lignée d'artistes guadeloupéens. Pascal Légitimus à ce micro dans un instant, mais avant toute chose, puisqu'on parle beaucoup en ce moment d'optimisation fiscale, eh bien j'ai un conseil à vous donner, faites comme moi, le mieux c'est d'acheter un cheval de course.
Lorsque j'appris par le journal qu'à la loterie nationale, mon dixième inopinément était remboursé par 20 francs, j'ai ressenti une émotion. Que ferais-je de tout ce pognon? C'est trop d'un coup, c'est anormal. Alors j'ai acheté un cheval. C'est un cheval de course, il est tout mon orgueil. Il faut le voir courir sur le parcours d'Auteuil. Hop, hop, quel miracle! Il boit tous les obstacles. Ce n'est pas un cheval, c'est une locomotive. Derrière lui, tous les autres s'en vont à la dérive. Hop, hop, qu'il est beau, il a le feu au sabot. Mon cheval, il s'appelle Hannibal. Mon cheval, il est phénoménal. Au départ, je suis fier, il est toujours en tête. Oui, mais à l'arrivée, je tremble des lorgnettes. Hop, hop, drôle de bête, il est septième sur sept. Ce cheval est un humoriste, il ne doit pas aimer la piste. En courant, il fait des petits pets et désarçonne son jockey. Il s'arrête près de la rivière pour voir les autres tomber par terre et joyeux rentre à l'écurie, me faisant perdre tous mes paris. C'est un cheval de course, il est tout mon orgueil. J'ai dû le retirer, il n'est pas pour l'Auteuil. Hop, hop, que m'importe, il faut qu'il me rapporte. Je le loue à un cirque, il aime la musique. Il fait sur des tangos, mille pas excentriques. Hop, hop, à minuit, il rentre à mon logis. Mon cheval, il s'appelle Hannibal. Mon cheval, il est phénoménal. Il fait le boogie-woogie et du swing pour finir. Et jusqu'au petit jour, gonflé de souvenirs. Hop, hop, quel délire, il m'empêche de dormir. J'ai tout fait pour le stimuler, je l'ai traité de dégonflé. Il s'en est fichu royalement, lui qui m'a ruiné totalement. C'est alors qu'à la foire aux puces, j'ai acheté un vieil omnibus. Dans les brancards, je l'ai logé et je suis devenu son cocher. C'est un cheval de course, il est tout mon orgueil. Je vais tous les dimanches de l'Étoile à Auteuil. Hop, hop, quelle affaire, n'aura-t-on pas la première? Je transporte les joueurs, c'est 100 francs du parcours. Quand j'en fais 5 ou 6, c'est 3000 balles par jour. Hop, hop, et je pense, grandeur et décadence. Bon cheval, tu t'appelles Hannibal. Bon cheval, jamais tu ne t'emballes. Et lui a l'air de me dire, avec son gros œil rond, c'est bien la première fois que ton vieux canasson, hop, hop, grand couillon, te rapporte du pognon.
Et toujours cette énergie irrésistible de Georges Guibourg, alias Georgius, extraordinaire personnage du musical. Je vais d'ailleurs lui consacrer toute une émission certainement au printemps prochain. Ça, c'est une chanson assez peu connue de 1946, Mon cheval de course avec l'orchestre de Marius Coste, qui vient de reparaître dans une double anthologie Georgius chez Marianne Melody. Et puisqu'on parlait de cheval, tiens, continuons encore avec un petit galop.
We'll be right back.
Et oui, vous avez entendu ces petites interruptions au milieu du galop, sont des soupirs, parce que ça s'appelle justement le galop des soupirs, Seufzer Galop, opus 9 de Johann Strauss-Pair, sous la direction de Claudio Abbado à Vienne le 1er janvier 1991. Bah, tout ça pour vous dire que ça approche, et oui, le concert du 1er janvier cette année, ce sera Riccardo Muti qui dirigera. Et puis tiens, j'en profite aussi pour vous signaler que notre ami Alain Duhaut vient de sortir chez Actes Sud un très joli petit livre sur la famille Strauss.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous retrouvons sans plus attendre mon invité qui est en ce moment d'ailleurs sur la scène du Théâtre des Variétés. Justement, le Théâtre des Variétés, c'était l'un des grands théâtres d'Offenbach où ont été créés quelques-uns de ses plus grands succès. Et il y a comme une filiation, si j'ose dire, entre les deux, parce qu'Offenbach, c'était le grand maître de la parodie musicale, du détournement. Et mon invité, eh bien, au sein des Inconnus, il a été aussi l'un des champions du détournement, du pastiche de la parodie musicale, comme on va pouvoir en juger, entre autres sujets, tout de suite avec Pascal Légitimus.
Hé hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto.
Hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas, duc de Montmorency. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit.
As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut, flûte, crotte.
Chier.
Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Salut, tu vas bien? Salut, tu vas bien?
Y'en a marre du fauchon,
du hédien,
du saumon,
du caviar.
Salut, c'est Patrick, l'appareil. Ouais, c'est Pat, tu vas bien?
Et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie. À faire le baisement à des pétasses mal baisées. Enfin, j'ai voulu dire des filles un peu coincées.
Je veux être un voyou, vrai de vrai hors la loi.
Mais quand t'es né ici, vous n'avez pas le choix.
Y'en a marre des Mylène,
Ségolène,
des Sylvine,
Gwendoline,
Églantine,
Marie-Chantal.
Y'en a marre, mon frère, on a de gros problèmes.
Y'en a marre, mon frère, de subir le système.
Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, l'ENA ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa.
Salut, tu vas bien?
Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Puis mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché.
Oui mec.
Et pour sortir de ce carcan éducatif capitaliste, il faut savoir dire non, non, non mec.
Salut, tu vas bien?
Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau.
Bonjour Pascal Légitimus.
Bonjour monsieur.
Je suis très heureux de vous recevoir sur France Musique. Vous savez, on fait dans cette émission un peu d'histoire de la chanson. Alors ça, c'est vraiment une chanson culte. Alors j'aimerais bien que vous nous disiez, vous vous rappelez d'abord l'enregistrement?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait appel à un ami d'enfance avec qui j'étais au lycée, de la 6e à la terminale, qui s'appelle donc Alain Granat.
Ouais.
Et donc, il nous a arrangé tout ça dans un studio. C'était à Joinville-le-Pont.
Ah oui? Et avec donc, des vrais instruments, hein, des sections de cuivre et tout ça, pas comme on fait aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. Il y avait 2-3 samples, mais en tout cas, majoritairement, on a fait appel à des musiciens pour composer ce morceau. Évidemment, qui est une pure parodie. Et moi, j'ai baigné dans ce milieu-là, de la 6e à la terminale. Donc, j'étais au lycée Claude Bernard, qui se situe ouais. toujours dans le 16e arrondissement.
Vous étiez un BCBG?
J'étais plus un B que voilà, le reste. J'étais un garçon qui essayait de sévir dans ce milieu-là. Mais c'était amusant parce que moi, j'habitais dans le 13e.
Ouais. Et mon père, c'était pas votre quartier, le 16e?
Pas du tout. Mais comme il n'y avait plus de place dans le 13e arrondissement, mon père m'a refourgué dans le lycée dans lequel il était étant gamin, dans le lycée de Sacha Distel, de Pierre Santini et d'autres, et d'Yves Boisset. Et puis donc, j'ai pendant quelques années, j'ai côtoyé ce milieu-là, que je l'appelais d'ailleurs les MST, les mocassins serre-tête. Et pour me venger un petit peu, mais en douceur, pour avoir vécu pas mal de choses assez croustillantes. Voilà, avec les copains, on a décidé de...
Ah, c'est un peu vous qui êtes à l'origine quand même, avec bien sûr Didier Bourdon et Bernard Campan.
Oui, parce que Bourdon a habité à Saint-Germain-en-Laye, donc on avait des points communs.
Oui, voilà. Voilà,
donc on a eu cette idée-là de faire une espèce d'oxymore entre voilà la banlieue et les quartiers un peu... Huppé.
Voilà, immense succès, hein, je crois, en tête des ventes du top 50 pendant plusieurs semaines, etc. C'était extraordinaire, c'était pas attendu, vous avez fait amuser, j'imagine.
On s'attend jamais au succès, nous on s'amuse, on pond nos petites œuvres, nos petits bébés, et puis après c'est le public qui décide, mais effectivement on a été assez surpris que ça passe dans les ondes, parce qu'au départ c'était un sketch pour la télévision, et puis ensuite Paul Lederman et Claude Martinez ont eu la bonne intelligence de le déposer dans les radios, et puis bon, ça a fait le succès.
Et ça tourne toujours.
Et ça tourne toujours.
En tout cas, merci d'être là, ça me fait plaisir. Je dis merci d'autant plus que vous êtes un homme débordé, quand je vois tout ce que vous faites.
Oui, mais de moins en moins débordé, bizarrement.
Ah bon ?
Oui, oui, je suis plutôt monotache.
En ce moment, vous êtes à la fois acteur dans un spectacle non à l'argent en variété, vous êtes metteur en scène d'un autre after work, évidemment, ça n'oblige pas à être là tous les soirs, peut-être,
mais
quand même.
Non, mais le travail a été fait il y a plus de 6 mois, donc voilà, j'en suis débarrassé, mais avec bonheur, parce que c'est vraiment deux gars formidables qui jouent dans cette pièce de théâtre after work.
Et vous venez de sortir un conte musical ?
Oui.
Ah oui, un très joli petit conte musical, Les Derniers Jours, dont vous êtes le narrateur.
Je suis le narrateur, tout à fait.
Voilà, bah, ça fait beaucoup quand même.
Oui, mais dans une année, il y a de la place. Hein. Comme tout sort en même temps, donc ça fait un peu bizarre. Mais je suis plutôt monotache cette année, c'est-à-dire que je me consacre essentiellement à ce spectacle non à l'argent, Théâtre des Vérités, parce que voilà, c'est beaucoup de travail, il faut être en forme. Et puis l'année prochaine, je ferai d'autres choses.
Mais alors, entre la mise en scène et justement l'acteur, aujourd'hui, c'est, on va dire, un équilibre stable.
Je privilégie l'actorat. Voilà. Essentiellement, parce que c'est là où je jouis le plus.
Alors, on va revenir sur ces deux spectacles tout à l'heure, bien sûr, Pascal Légitimus, mais il y a une autre raison pour laquelle j'avais envie de vous inviter. D'abord parce que, finalement, la musique, on la retrouve tout le temps au fil de votre carrière, dans différents spectacles, dans différents moments. Et puis, vous avez aussi baigné dans une famille extraordinairement artistique et musicale. Et je me disais que ce serait peut-être bien de raconter ça un petit peu aux auditeurs. En tout cas, la musique fil conducteur, vous approuvez, c'est un des fils conducteurs.
C'est un défi conducteur, mais je dirais presque majeur, c'est la colonne vertébrale de cette famille, la famille Légitimus, parce que on va dire que 95% des membres de ma famille, latéraux, en haut, en bas, à droite, à gauche, côtoient ce milieu-là, aussi bien dans la radio que la musique, que le théâtre, ou la synchronisation. Bref, tout ça pour dire que moi, j'ai vécu entouré de musiciens.
Voilà, alors on va remonter un petit peu dans le temps pour commencer. Là, c'est même pas votre temps de votre petite enfance, ni de votre père, mais plutôt peut-être de votre grand-mère, avec Munde Rivel, qui chantait avant la guerre des chansons antillaises. Vous connaissez Munde Rivel,
j'imagine ? Oui, bien sûr, j'ai connu, oui.
Voilà, grande figure de la musique antillaise. On en écoute un petit peu et puis on parle de toute cette famille Légitimus.
Mi fani, la Guadeloupe a fait vent, ni vani, mi vani, tout droit des vani qu'a poussé. Ni, mi vani, chanson fleurie et pile en mou. Ni, mi vani, moi qui aimer toujours, toujours. Chocolat la doumté, c'est ça je lui aimé. Quand vani parfumé, rani mi queraille, oi oi. Chocolat la doumté, c'est ça je lui aimé. En vanille parfumée, ranimée, que rayo, oyo, oyo.
Moon de Rivel, grande figure de la musique antillaise et notamment de la musique antillaise à Paris, Pascal Légitimus. Je vous montrais à l'instant un disque qu'elle a fait quelques années plus tard. Ça, c'était Chocolat en 1946, mais un autre disque avec justement un Légitimus dans la formation qui joue de la guitare, qui est de votre famille.
C'est ça, c'est Clément Légitimus, donc c'est le cadet de la famille, donc c'est le petit frère de mon père.
Voilà. Le petit frère de votre père. Ouais. Vous êtes trop jeune pour avoir connu le bal de la rue Blomet où se produisaient tous les musiciens antillais, j'imagine.
Oui, trop jeune,
dont Moon de Rivel.
J'en ai beaucoup entendu parler, évidemment, parce que mon père me racontait tout ce qu'il faisait, parce que c'était vraiment, il avait des histoires assez amusantes. Et puis,
votre père qui est pourtant acteur, plus que musicien, pas musicien.
Oui, oui, il a été plus acteur. Enfin, il y a une période de sa vie, il a démarré très très jeune en tant qu'acteur vers l'âge de 4 ans,
ouais.
Avec Georges Milton qui était un chansonnier.
Bien sûr.
Et plus tard, il est devenu essentiellement acteur, oui.
Voilà. Alors, à l'origine de cette famille, il y a quand même, il faut le dire, des personnages extraordinaires, et notamment votre grand-mère, Darlene Légitimus, dont j'ai lu qu'elle avait même sauvé la vie de Joséphine Baker.
Oui, c'est vrai. Elle a...
Racontez-nous, si vous voulez. Elle faisait partie de la revue Nègre de 1925,
oui.
Et des spectacles qui ont suivi.
Un peu plus tard, parce qu'elle a débarqué à Paris vers 14-15 ans, donc elle est née en 1907, donc ouais. On calcule à peu près vers quelle année c'était. Et puis, au culot, elle a débarqué, alors je ne sais plus si c'était aux Champs-Élysées ou aux Folies Bergères, en tout cas, elle a débarqué dans la troupe, elle a demandé à travailler, à être engagée, elle voulait être engagée comme danseuse. Alors on lui a demandé si elle savait danser, elle a dit oui, bref. Elle y était au bluff. Finalement, son culot a payé. Et puis elle est devenue un peu copine avec Joséphine Baker, parce que Joséphine Baker à l'époque c'était pas la vedette de la revue, c'était une femme qui s'appelle Maud de Forest et qui était un peu enrobée. À l'époque on choisissait plutôt des femmes un petit peu enrobées qui étaient sur le devant de la scène. Et puis chaque danseuse particulièrement avait un mac ou un protecteur. Ouais. Et on va dire que Maud de Forest était un peu jalouse.
Joséphine,
parce qu'elle avait un peu la cote, elle était brillante, amusante. Et donc un jour son mac est arrivé et puis il l'a menacé avec un couteau. Et puis pour bêtement s'amuser, il a lancé le couteau. Et à un moment donné, le couteau a atterri dans la porte de la loge, parce que ma grand-mère a vite fermé la porte de la loge. Sinon, il aurait atterri à côté du museau de Joséphine.
De Joséphine.
Donc, grâce à ça, elles sont devenues copines. Et puis c'est Joséphine Baker qui a donné le surnom de ma grand-mère, parce que ma grand-mère s'appelait Marie Paruta, et pas encore Légitimus.
Et elle était d'ailleurs martiniquaise, alors que votre famille est guadeloupéenne.
C'est ça. Voilà. Mon grand-père, donc, Étienne, était dans la Guadeloupe, de Marie-Alante.
Voilà.
Et donc, ma grand-mère s'appelait Marie Paruta Darlin. Et Joséphine a eu la bonne idée de dire, écoute, tu mets un G, ça fera Darling, ça fera américain, parce que c'est la mode. Voilà.
Voilà. Et par la suite, donc, elle a fait une grande carrière d'actrice. Hein,
tout à fait, oui.
Darlene Légitimus, d'ailleurs, on peut retrouver tout ça sur Internet. Mm-hmm. Et dans un certain nombre de disques aussi. J'ai trouvé La Casse de l'Oncle Tom, des choses comme ça. Des
oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'actrices qui jouent un peu les nounous, les mamas, qui était un peu le rôle qui était attribué, aux vieilles négresses. Et puis donc, elle a, comme ça, elle a sillonné à travers le cinéma français avec des rôles plus importants par la suite.
Et puis, du côté Légitimus, il faut dire aussi que votre arrière-grand-père était une grande figure de l'histoire politique de la Guadeloupe. Ça a été un des premiers élus socialistes, franc-maçon aussi, je crois, et très engagé dans la vie politique là-bas.
Bah, il a permis aux enfants d'aller à l'école, d'avoir une espèce d'activité culturelle, si je puis dire. Et puis, il est arrivé à Paris, c'était un des premiers noirs députés à l'Assemblée. On l'appelait le singe, d'ailleurs, à l'époque, déjà.
Ah, carrément.
Oui, non, mais c'était violent. Mais il a fait beaucoup de choses positives. Par la suite, mon grand-père, donc un de ses fils, a créé la Solidarité Antillaise, qui était une association qui permettait aux Antillais qui débarquaient à Paris, qui étaient un peu perdus, de se retrouver ensemble. Voilà.
Donc vous êtes quand même l'héritier d'une grande dynastie familiale.
Je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que le nom Légitimus est assez
là-bas,
présent.
En Guadeloupe notamment, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Alors, donc, votre grand-mère Darlene a eu, je crois, quatre fils, ou il y en a peut-être d'autres, en tout cas, quatre fils qui ont tous fait des arts, de la musique.
Oui.
Théo, votre père, Gustave, Clément, Gézip.
Alors, Gézip a été très important parce que c'est un des premiers qui a créé les premières radios, on va dire, comme France O et tout ça. Il est à l'origine de France O avec pas mal de personnes. C'est un producteur qui a permis aussi à Gérard Lavigny, Manu Dibango. Il avait une émission qui s'appelait Pulsation, ouais, qui a permis donc à toutes ces personnes qui débarquaient, soit d'Afrique, en tout cas de la diaspora africaine ou antillaise, de s'exprimer à la télévision. À l'époque, c'était en noir et blanc. Voilà.
Ouais, c'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, là aussi, on peut retrouver des documents à l'INA. Mais alors, moi, j'ai ressorti encore un autre de la famille. Vous allez nous dire qui c'est, parce que il a fait pas mal d'enregistrements, lui. Il s'appelait Gustave.
Gustave, tout à
Légitimus,
fait.
Légitimus,
ouais,
toujours.
Ouais, c'est vrai, qui a disparu
chef
trop
d'orchestre.
Tôt. C'est ça, il a disparu un peu tôt, hélas. Mais c'est quelqu'un que j'ai très, très bien connu, parce que...
Ah, vous l'avez connu, vous?
Oui, oui, bien sûr. Bien, je l'ai connu. Et... Parce que mon père m'en est souvent dans ces soirées, ces événements qu'ils organisaient. Et j'avoue que je le revois... Alors, il était pas très grand, il était un petit peu bossu, il avait une malformation, hélas, mais en tout cas, il avait une énergie, et c'était lui le chef d'orchestre. Voilà.
Voilà. Et là, on va le retrouver avec Mathilde Légitimus, dans une émission de l'Union Française, magazine de la France d'Outre-mer, du 23 novembre 1951.
Madame Mathilde Légitimus, accompagnée d'Aubert Ferly et de Gustave Légitimus, va vous interpréter une mazurka créole.
Gouvernement pas moyen petit chapeau, aïe aïe aïe. Gouvernement pas moyen paix soulier. Gouvernement pas moyen belle matrasse. Moi ça râle au soleil au casino. Oui, gouvernement pas moyen petit soulier. Gouvernement pas moyen belle soulier. Gouvernement pas moyen collier chou. Moi ça monte au soleil au casino. Oui, messieurs et dames, pas regardez-moi comme ça. Messieurs et dames, moi c'est un bel matador. Gouvernement pas moyen collier chou, moi ça monte au soleil au casino. Oui.
Voilà les archives de l'INA, ça permet quand même de retrouver des choses rares, c'est Pascal Légitimus.
Très émouvant d'entendre ma grand-mère.
C'est donc votre grand-mère, cette Mathilde Légitimus,
tout
en fait.
Tout à fait, tout à fait.
Donc alors, Darlene, qu'on a évoqué tout à l'heure.
Voilà, donc avec mon oncle qui était donc aux percussions.
En 1951, alors ça c'est...
Mais elle chantait tout le temps, c'est-à-dire que j'ai reconnu tout de suite sa voix, parce que quand elle était à la maison, ou même en vacances, n'importe où, elle chantait tout le temps, même sur les tournages. Je me rappelle Jean-Claude Brialy, à un moment donné, parlait d'elle, parce qu'il disait, mais c'est une femme, on la faisait taire, parce que même pendant les prises, on entendait chanter dans les loges, donc c'était quelqu'un de très expressif.
On pourrait en parler longtemps, parce que comme j'ai dit, c'est une espèce de dynastie, mais c'est votre famille paternelle, du côté maternel, votre mère était arménienne.
Hein. Oui, tout à fait.
Je ne sais pas si vous êtes intéressé d'ailleurs aussi à la culture, musique arménienne.
J'ai baigné aussi à 50% dans cette culture-là, aussi bien au niveau de la nourriture, au niveau des cultures, mais de l'histoire. Parce que je me suis posé la question pendant des années, pourquoi les Turcs étaient aussi agressifs, même avant Jésus-Christ. Ça a commencé très très tôt envers les Arméniens. J'ai compris qu'ils étaient dans une enclave, dans un emplacement qui gênait beaucoup. Et voilà, donc c'était un pays d'artisans, un des premiers pays chrétiens. Et surtout, il y avait le mont Ararat que les Turcs se sont appropriés, parce que c'est là où Noé a débarqué avec tous ces animaux. C'est un endroit très important au niveau de tellurique.
Votre mère, vous l'avez perdue très jeune, Pascal Légitimus.
Je l'ai perdue, j'avais 15-16 ans.
15-16 ans.
Hélas, elle est décédée d'un cancer. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une carence affective qui s'est effectuée progressivement.
Votre père vous a quand même encouragé à commencer le métier, vous a inscrit au conservatoire
Enfin, il ne m'a jamais empêché de travailler.
Voilà.
Alors, conservatoire, j'ai essayé tous les concours possibles et inimaginables, mais je les ai tous ratés. Mais en même temps, ça m'a permis de me forger, de me renforcer en écrivant des spectacles seul avec des camarades, notamment Seymour Bossel, où j'ai écrit mon premier spectacle de café-théâtre dans les années 79. Voilà.
Mais et même avant, je crois, alors une chose importante, parce que c'est encore du côté de la musique, pour vous, ça a été Marthe Mercadier, qui a monté justement une comédie musicale, et ça a été une des premières fois que vous vous montiez sur scène, j'imagine.
J'avais 9 ans et demi, 10 ans,
ouais.
Et donc je me rappelle que je prenais...
La planète inconnue.
Voilà, c'est ça. Donc le titre est un peu évocateur et en même temps une espèce de réminiscence passéiste, mais c'est vrai que c'est une coïncidence entre le groupe Les Inconnus et La Planète Inconnue, j'ai l'impression que
Il
y a une synchronicité qui s'est mise en place. Et moi, je me rappelle que je prenais le 27, parce que j'habitais dans le 13e rue de Tolbiac, et je prenais le 27 tout seul, vers l'âge de 10 ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des problèmes de pédophilie qui s'émissent actuellement. On n'avait pas. On était dans une ville anxiogène. Donc, je partais tout seul au théâtre de l'Athénée, qui est juste derrière le théâtre Édouard VII. Et c'était René Dupuis, un des membres de la Comédie Française, qui dirigeait ce théâtre. Et Marthe Mercadier avait produit un spectacle pour enfants, dans lequel j'ai participé avec Éric Métayer, qui avait 2 ans de plus que moi, donc 12 ans, et ma cousine. Aussi, Mathilda, voilà. Donc, j'avoue que j'ai commencé à mes premiers émois sur scène grâce à Marthe Mercadier, effectivement.
Voilà, et donc quelques années plus tard, le Café Théâtre, qui vous a conduit aussi vers le Petit Théâtre de Bouvard, qui a été une des premières choses vraiment importantes.
C'était la grosse médiatisation. Hein,
voilà,
des millions de gens vous regardent tous les jours à 8h moins le quart pendant 2 ans. Je crois qu'on a le plus gros taux d'écoute sur le record du Guinness. 25 millions de spectateurs qui nous regardent et plus de 52% de parts de marché.
Daniel Schick, c'était un de vos copains à l'époque?
Oui, bien sûr. Ouais. Bah, on a démarré ensemble en sixième. Ce qu'il m'avait vu dans le spectacle de Marc Mercadier, La planète inconnue, et il m'a reconnu. J'étais en sixième dans la même classe. Il m'a dit, bah, je te connais, je t'ai déjà vu sur scène. Et puis, on a créé naturellement un club théâtre. Voilà, on s'est associés amicalement. On a créé un petit club théâtre de la sixième à la terminale parce que tous les ans, on montait des spectacles. Donc, dans ce lycée Claude Bernard, parce qu'on avait la chance d'avoir une salle de spectacle.
Vous aviez des idoles à l'époque, je sais pas, ou des modèles. Je sais que vous aimez particulièrement, vous avez toujours aimé Henri Salvador.
Oui, parce que c'était la personne, comme je le dis souvent, en laquelle je me représentais. Il y avait une référence visuelle. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais plutôt pro-américain parce que mon père nous emmenait souvent au cinéma voir des films américains, alors des humoristes, des comiques. Alors ça passe par Buster Keaton, les Marx Brothers, Jerry Lewis. Et ce n'est que plus tard que j'ai adoré et connu tous les chansonniers français, dont notamment Bourville, Fernand Reynaud, Fernandel. Ah oui, je suis friand de ces gens-là qui sont à la fois ambivalents dans leurs sentiments parce qu'ils sont à la fois drôles et très émouvants.
Oui, c'est vrai. Bon, bah, restons d'abord un peu américain avec un extrait de Singing in the Rain.
Bien sûr.
Que vous adorez, je crois.
Oui, parce que ma fille le chante tout le temps.
Ah, votre fille.
Oui, elle a 7 ans. J'ai montré il y a 2-3 ans cette comédie musicale et depuis, je l'entends quasiment tous les jours faire des claquettes dans la maison.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa said go out and tell 'em a joke. But give it plenty of hope. Make 'em roar, make 'em scream. Take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh.
Et là, on était en 1952, juste un an après Gustave Légitimus, mais sur un peu une autre planète.
Oui, une belle planète.
Parce que Légitimus, une belle planète que vous aimez, celle de la comédie musicale américaine, avec Donald O'Connor dans cette chanson super connue. Vous me disiez qu'il s'était beaucoup fatigué à l'enregistrer.
Oui, d'après les anecdotes que j'ai pu lire, évidemment, c'est un exercice de style, hein, et puis c'est une vraie chorégraphie acrobatique. Et d'après ce que j'avais compris, il était épuisé. Et ça, en tout cas, j'en suis sûr, cette chanson a été inspirée d'une autre chanson de... Alors, je sais plus si c'est Cole Porter ou quelqu'un d'autre, qui s'appelle Be a Clown. Et il y a eu un arrangement entre les deux auteurs. Et comme le premier compositeur avait été aidé par les seconds compositeurs, il lui a dit gentiment, il n'y a pas de souci, je vais pas t'embêter pour la reprise, qui est un plagiat un peu amélioré.
Ah oui.
Mais en tout cas, Be a Clown, c'est la chanson originale. Et après, c'est devenu celle qu'on connaît.
Qui a servi de modèle à celle-ci.
Tout bon, à fait. Alors, mais il faut que je vérifie.
On va regarder ça après, où les auditeurs vont sûrement nous envoyer toutes les précisions. En tout cas, donc, votre fille prend le relais pour en finir avec la dynastie. Ça y est, c'est parti. Elle va monter sur scène.
Elle aime bien les maths aussi, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, dans la famille, la musique est toujours présente. c'est quelque chose, c'est un bon véhicule de, pour l'éducation en tout cas.
Pascal Légitimus, donc après le petit théâtre de Bouvard, bah, il y a eu évidemment Les Inconnus, qui étaient plus ou moins quatre au départ. En
même
fait.
Cinq, au tout, tout début. Bah, Smaïn est parti avec nous en 84 du théâtre de Bouvard, parce qu'on s'était dit à un moment donné qu'on avait bien envie de... Voilà, de mettre nos égos plus en avant. Et c'est vrai que grâce à Philippe Bouvard, on a été très médiatisés. Il nous a donné cette chance. Il a donné la chance à des vrais inconnus à l'époque de s'exprimer, notamment Mimi Mati, Michel Bernier, Laspalais Chevalier et consorts. Et puis.
Tout ça, ça vient du petit théâtre de Bouvard.
Bien sûr, oui, oui, oui.
C'est extraordinaire. Mais
oui, écoutez, comme quoi, il y avait de la pépite, de la graine de champion à l'époque. Ouais. Et puis, on est partis ensemble. Smaïn a très vite rejoint ses origines premières, à savoir le one-man show. Il était déjà formaté pour ça, donc il nous a vite quittés. Et puis Seymour Bruxelles nous a quittés en
80... Vieux camarade, vous, oui, tout à fait. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hein, voilà.
Seymour Bruxelles est parti en 88, fin 88, et on a failli arrêter parce que le départ soudain de Bruxelles nous a un tout petit peu étonnés, parce que bon, il était plus ou moins d'accord avec la production, et puis il avait des envies personnelles. Il était en désaccord avec pas mal de choses, mais bon, voilà, ça c'est son point de vue. Et ensuite, à trois, on s'était dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est donc Jacques Descombes, un ami du conservatoire avec Didier, qui nous a dit, mais à trois, c'est pas mal aussi. L'énergie passe mieux, peut-être. C'est toujours deux contre un, donc c'est une géométrie variable. Donc on a tout réécrit le spectacle, qu'on avait écrit en 88, pour trois. Et donc on a démarré au Palais Royal le 5 mai 89. Et là, starting block, et c'est parti.
Vous dites, vous avez écrit, ça veut dire que tous ces merveilleuses quantités de sketchs des inconnus qu'on regarde en boucle sur nos téléviseurs, c'est des choses qui sont d'abord écrites ou qui sont nées beaucoup aussi de l'improvisation de...
Alors, il y a plusieurs phases. D'abord, c'est trois copains qui déconnent, qui ont des choses à dire, qui s'expriment, qui ont un point de vue sur l'actualité, sur un bouquin, sur une observation, sur des personnages, sur des métiers. On se retrouve, comme souvent, on se voyait presque quasiment 12 heures par jour, matin au soir, et puis... On s'exprime. Alors moi, j'ai envie de faire ça. Emmanuel, tu descends. Je me rappelle, c'est né. J'étais dans un appartement à Fontenay-sous-Bois. J'avais une mezzanine. Didier était en train de fumer sa pipe sur la mezzanine. Et moi, tout d'un coup, je lui lance Emmanuel, tu descends. Et lui, il dit, pourquoi faire? Et c'est parti comme ça. Donc après, on s'approprie les personnages. Ouais. Quand on a trouvé nos personnages, on commence à écrire. Qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on raconte? Bah, après, voilà, c'est le point de vue de la société. C'est une critique sociale ou c'est juste simplement des personnages un peu clownesques. Mais toujours est-il qu'il faut le fond et la forme. Voilà.
Ouais. Et les chansons, c'est arrivé assez vite alors ?
Oui, parce qu'on est tous les trois musiciens. Bernard joue du piano, Didier et moi de la guitare. Donc déjà, entre nous, on faisait des petits bœufs, parce que on avait envie de ça. Quoi. Ouais. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va écrire les chansons. Mais on n'est pas chanteurs, hein, on est loin d'être Johnny Hallyday ou la Calasse. Voilà, toujours est-il que...
Faire des succès quand même.
Et au départ, Paul Lederman a dit, oui, mais vous n'êtes pas chanteur, continuez à faire des sketchs. On a dit, oui, mais on a envie. Finalement, ben voilà, on a fait des parodies.
On en a déjà évoqué une, Auteuil Neuilly Passy, on peut en évoquer encore deux autres. Raptou, grand tube, ça c'est venu comment ça vous rappelez?
Alors ça je m'en souviens très bien, les Raptou, donc Didier, les chroniques de Pascal Légitimus à la radio. Didier était à la cuisine, il faisait du café et moi j'étais avec Bernard dans le salon et tout d'un coup je lui dis, moi j'en ai marre là, j'ai reçu ma feuille d'impôt, j'en peux plus là, regarde tout ce qu'on paye, il y a les taxes foncières, les taxes immobilières, enfin je lui énumère toutes les taxes, je lui dis, moi j'en ai un... si on faisait un sketch où on énumère tout ça tout simplement, puis après on trouvera la forme. Puis Bernard dit, bah tiens, je me souviens que Didier, étant jeune, avait écrit des chansons vampires.
Ouais.
Je l'avais vu même au cabaret faire ça. Il s'est dit, bah, pourquoi on ne ferait pas des chansons vampires, mais des vampires qui sucent l'argent? Donc la métaphore était déjà claire. Didier revient avec son petit café, il dit, les gars, vous faites quoi? Bah là, on a une idée, qu'est-ce que t'en penses? Il a dit, bof, je sais pas, je vois rien, j'ai pas le feeling. Et on se quitte là-dessus. Et le lendemain, Didier, ça avait mûri dans la nuit, revient avec déjà un couplet et une mélodie. Et parti. Donc après, chacun a rajouté sa sauce et puis voilà.
Alors, autre grand tube, mais celui que j'ai choisi d'écouter maintenant, parce que je l'adore aussi, c'est... alors, il y a deux titres. Hein, moi, c'est la phrase que j'aime, c'est toi que je t'aime.
Oui, c'est toi que je t'aime. Alors ça, c'est plutôt l'initiative de Bernard, parce que Bernard aime bien le rock.
Ah, oui, ça, c'est plus punk. Hein,
oui, voilà. Oui, c'est plus campant, ça. Ouais. Ouais. Et puis, bah, oui, ça aussi, c'est une chanson voilà, parodique. La négra bouche bite, comme on dit.
À Juvisy, et toi tu crèches à Neuilly. Notre rencontre c'était fatale, ça s'est passé dans les Halles. Depuis je veux te revoir, que je suis au désespoir. J'ai même plaqué toutes mes meufs, toi tu me fais un effet bœuf. Y'a pas plus con que Monique, qui est caissière à plus unique. Plus moche que Maïté, qui travaille au PTT. Je sais sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime
vachement beaucoup.
C'est toi que je t'aime
vachement beaucoup.
Je t'inventerai un domaine où l'amour sera roi. Je bosserai toute la semaine, même le dimanche chez Ikea. Je ferai de la variété pour passer chez Sabatier. Et que même s'il le faut, j'irai chanter chez Foucault. Je suis capable pour faire du fric, d'être caissier à prise unique. Et de passer tout l'été à me faire chier au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup.
Pour toi je repasserai mon bac,
je serai poli avec ta mère.
Je voterai pour Jacques Chirac.
J'arrêterai de boire de la bière.
Je mettrai un costard cravate.
J'irai à Roland Garros.
Je te jure j'aurai plus de Morbac.
J'écouterai Demis Roussos.
Je donnerai pour la Croix-Rouge.
Je serai plus 36 Casula.
J'achèterai le Figaro.
Je pisserai plus dans le lavabo.
Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime
vachement beaucoup.
C'est toi que je t'aime
vachement beaucoup.
C'est toi que je t'aime
vachement beaucoup.
Les Inconnus côté rock, même hard rock on peut dire, là ici, donc Pascal Légitimus avec une chanson culte encore.
Eh oui, ben écoutez, nous voilà, c'est des chansons qui nous tiennent à cœur parce que voilà, c'est une expression de l'époque.
J'ai lu, je sais pas si c'est vrai, que vous aviez peut-être au début au moins des Inconnus, vous avez une espèce de petit complexe d'infériorité par rapport à vos deux camarades.
C'est pas vraiment un complexe, mais il est vrai que à un moment donné dans ma vie, je me sentais différent parce que je me t'ai dit tout simplement que Didier Bernard, ouais, ils sont géniaux ces mecs-là, ils sont bons, ils ont des idées. Et moi, bon, alors
enfin, vous étiez trois.
Oui, mais c'est une espèce de, c'est pas un complexe, c'est une espèce de manque de confiance en soi plutôt, on va dire, hein, parce que évidemment j'écrivais. Et c'est un jour une dame qui m'a dit, mais Pascal, je t'ai vu une fois, tu as reçu ton Molière, tu étais tout timide, mais si tu es là avec les deux autres, c'est que tu as une raison, tu n'es pas là par hasard, tu as ta valeur ajoutée. Et ça m'a fait du bien que cette femme-là, qui était un peu une espèce de conseiller en psy, pédiatrie, je sais plus quoi, bref. Et puis ça m'a fait du bien, je me suis dit, bah oui, effectivement. Donc du coup, ça m'a donné confiance en moi et puis ça m'a permis de faire des choses à côté aussi, de m'éclater, de m'expulser de moi et puis de devenir ce que je suis.
Voilà. Et puis alors, contrairement à beaucoup d'autres grands groupes de rock, n'est-ce pas, vous êtes restés toujours camarades. Ça, c'est important.
Ah bah oui, parce que y a quand même une amitié qui est là et je pense qu'il sera toujours là parce que on a vécu tellement de choses fortes.
Ouais.
C'est inoubliable. Après, bon,
ça peut conduire à des ruptures parfois.
Ouais, mais c'est plus des divergences de point de vue plus que des ruptures affectives parce qu'on s'aime évidemment. On se voit tous les uns les autres. C'est plus de voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses, mais ça c'est normal à un moment donné. Donc, et en plus surtout, on a notre emploi du temps qui est assez pris par la famille, nos vies privées, donc ça compte. Avant, on était plus ou moins célibataires et on se voyait quasiment 26 heures sur 24. Donc
ça a été joyeux de vous retrouver en 2014 pour faire le retour des trois frères.
C'est parce que ça a été joyeux qu'on s'est retrouvés parce que je les ai invités dans le spectacle que j'avais coécrit avec Mathilde Amet et Gilles Galliot. Plus si affinité, qui était la dernière à l'Olympia. Donc j'ai invité mes camarades, donc je leur ai écrit des petites vannes pour qu'ils s'incrusent dans le spectacle avec d'autres guests comme Romanoff, Anthony Cavana, Arnaud Ducret et consorts. Et puis Bernard Campan a vu ce jour-là l'Olympia deux jours de suite, le 24 et le 25 janvier 2011, quasiment 2000 personnes se lever quand on est apparu tous les trois ensemble. Pendant plus de 5 minutes de standing ovation, il y a même des gens qui pleuraient de nous voir ensemble. Et à la sortie du spectacle, Bernard a dit, j'ai retrouvé des sensations que j'avais perdues. Donc, les gars, retrouvons-nous, quoi. Et donc, quasiment 15 jours plus tard, on s'est retrouvé chez moi à réfléchir pour soit un spectacle ou un film. Et ça donnait le film Les Trois Frères, Le Retour.
Alors, il n'empêche qu'à un moment, les trois inconnus, vous avez finalement chacun pris votre chemin. Donc,
et
après les premiers grands succès. C'est arrivé simultanément pour les trois, d'une certaine façon.
Déjà, en parallèle, on faisait des choses. Didier a fait pas mal de cinéma. Moi, un petit peu, j'ai fait des bricoles. C'était Bernard qui était plus en retrait. Et Bernard s'est épanoui beaucoup plus tard. Et avec raison. Mais c'est vrai qu'on avait besoin d'être en jachère, de vivre des expériences d'infidélité pour mieux se retrouver et s'enrichir ailleurs. Et donc le groupe n'est pas forcément terminé parce que on est quand même coagulé affectivement.
Ouais.
Mais ce qui est important, c'est d'avoir envie de faire quelque chose en commun. Donc pour l'instant, on n'a pas d'idée précisément. Donc tout le monde nous demande, mais là, c'est statu quo, si je puis dire.
Alors vous, dans ces années où vous avez pris un peu votre chemin, il y a eu notamment ce film Anti sur scène en 2000 que j'ai revu avec beaucoup de plaisir il y a peu de temps. C'est un film assez musical aussi. C'est pour ça que j'en parle parce que vous avez même fait tout un album avec avec des morceaux que vous signez, même des morceaux pas chantés. Donc j'imagine que vous avez suivi toute la fabrication de la musique de ce film.
C'est un bébé auquel je tenais parce que c'était un pamphlet. Parce que j'en avais un petit peu marre.
C'est sur les clichés, par rapport
aux
Noirs, aux Antillais, etc. Voilà.
Ce n'est que de l'humour, évidemment. Ouais. Donc l'humour, c'est quoi ? C'est d'abord de se moquer de soi-même.
Ouais.
Même si certains Antillais ont du mal encore à accepter certaines choses. Je l'avoue, on m'a souvent tapé sur les doigts pour avoir dit des vérités.
Ouais.
Mais bon, tant pis, j'assume, j'ai pas de soucis. Notamment le personnage de Marie-Thérèse, on me le reproche souvent.
Ah ouais.
Du côté Antillais, du côté... mais même les Antillais qui adorent, mais il y a certains Antillais intellectuels qui ont des blogs sur internet, notamment Le Surfeur et d'autres, bref, qui me disent « oui, il y en a marre, on est assimilé à Marie-Thérèse ». Je dis « mais c'est de l'humour les mecs, moi faire rire avec des choses positives, ça ne m'intéresse pas ». Donc les meilleures blagues juives, ce sont les juifs qui les racontent. Donc à un moment donné, il faut arrêter
avec
ça.
Mais le climat général est quand même assez, comme on dit, politiquement correct sur tous les sujets. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, on ne peut pas rire de tout aujourd'hui.
Voilà, donc ce film, c'est un pamphlet pour permettre et dire aux dirigeants artistiques français qu'il y a quand même une communauté qui existe et il faut faire les choses pour eux aussi. Voilà.
Ouais. Ça, c'était donc en 2000. Hein.
Ouais.
Tiens, justement, les clichés, si j'ose dire, ils sont à la chanson titre que vous interprétez pour nous donc dans Anti sur scène.
Tropica !
Be careful, messieurs et dames, on move, on groove, on remue le paquet d'os, DJ balance la sauce. Le ciel est gris, y'a du blues dans l'air. Du postillon, des glaçons, c'est l'hiver. Tous les matins, tu te lèves pour ta petite barrière. Embouteillage, ton boss, ton gueule, tu te laisses faire. Bon citoyen, tu descends au parc, mec. Il est trop tard, tu t'es encore fait, mec. C'est pas ton jour, pivot à la fourrière. Encore un stress et bonjour le cancer. On va tropicaliser la planète. Oublie ton serveur de la fête. Doudou est là, pas de mille problèmes. Les chômeurs sont toujours 3 millions. Le trou de la sécu est en pleine expansion. Plus de confiance, trop de malversation. Pour faire une colonne, colonne, faut pas le sous-capuchon. Ras des villes, ras des coups hors de ma vue. Toi qui pollues nos enfants dans la rue. Ça dégouline dans les narines, on est tenu. Trop de suppos, on en a plein. On va tropicaliser la planète. Oublie ton saveur dans la fête. Doudou est là, pas de mille problèmes. Danse avec nous, plus de avec nous.
Un extrait d'Anti sur scène, le film de Pascal Légitimus, avec Pascal Légitimus, faut savoir, parce que vous jouez que des petits rôles en fait, dans votre film.
Oui, je fais 5 caméos dans le film et c'était le but, c'est de me
dont des femmes d'ailleurs.
De me retrouver dans le film, c'était un peu le jeu.
Voilà, il y avait aussi votre père.
Tout à fait, il y a beaucoup de copains et puis beaucoup d'acteurs de la diaspora, j'avais envie de prouver à la communauté française qu'il y a de très bons acteurs qui s'expriment.
Ça, c'était il y a 17 ans. Ça a changé. Les clichés sont moins forts. Les personnes de couleur, comme on dit, sont plus présentes dans le monde du spectacle.
Oui,
etc.
Mais bizarrement, je trouve qu'il y a plus d'Africains. Alors, sans être raciste, hein, non, je rigole bien sûr. Mais je trouve qu'il y a plus d'Africains que d'Antillais.
Ah oui.
Omar Sy, Eboué, il y en a, enfin, beaucoup plus, quoi. Et donc, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'acteurs de la diaspora ultramarin, comme on dit chez nous, antillaise. Mais je pense que voilà, ça commence à. Là, il faut être moins timide, il faut travailler. Alors moi, on m'a souvent dit oui, mais c'est parce qu'il y a des blocages. Ben oui, mais non, parce qu'il y a des blocages pas pour les Africains. Donc
non.
Je sais pas d'où ça vient, mais effectivement, je pense que... En tout cas, moi, j'aide. J'essaye toujours
En tout cas, ça vous préoccupe, vous avez envie, quoi. Vous êtes attaché à cette filiation.
C'est important, parce que On est quand même plus de 800 000 en France et aux Antilles équivalents. À Réunion, il y en a 700 000. Donc, à un moment donné, on a droit aussi à avoir des références.
Bien sûr, bien sûr. Et ben voilà, alors regardez à nouveau, chers auditeurs, ce film. Et puis aussi, allez en tout cas voir Pascal Légitimus d'un spectacle à l'autre. On va en reparler tout de suite. Mais d'abord, il y a une chose qui me...
Taraude.
Qui me taraude, comme vous dites. C'est comment est-ce que vous, qui avez vraiment été acteur, chanteur, humoriste pendant toutes ces années avec Les Inconnus, avant chez Bouvard, etc. Tout d'un coup, vous êtes devenu de plus en plus souvent et régulièrement le metteur en scène des autres.
Mais parce que c'est à la demande des
de
autres.
Laurent Ruquier, d'Élie Dieudonné, ouais. De, etc.
C'est le
etc.
hasard des rencontres. Ces gens-là ont voulu me rencontrer. Alors, les premiers, c'est évidemment Élie Dieudonné en 89. C'est Dieudonné qui est venu me voir.
D'ailleurs, vous n'avez jamais renié votre admiration pour l'humoriste qui est Dieudonné, même
mais
si
non.
vous êtes en désaccord sur bien d'autres points.
Évidemment, comme beaucoup de gens, Dieudonné, c'est quelqu'un d'important,
ouais.
Qui dit des choses d'une manière très très drôle. Après, il y a l'homme et l'artiste.
Ouais.
Évidemment, ça se confond, donc c'est un peu compliqué, mais...
Élie Dieudonné, donc ça a été les premiers.
C'était les premiers. Donc c'est Dieudonné qui m'a contacté en premier, qui m'a dit voilà, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais que tu nous aides, on est deux petits copains, on a écrit des petits sketchs, qu'est-ce que t'en penses, on cherche un metteur en scène. Et j'ai vu qu'il y avait de la graine de champion, qu'il y avait une évidence. Après, donc, on a travaillé ensemble, je les ai coproduits avec Jean-Pierre Dombois, donc l'attaché de presse.
Mais vous aviez ce désir ou c'est venu plutôt parce qu'on vous l'a demandé de, justement de regarder les autres, de les aider, de les diriger?
C'est l'occasion qui fait le marron, à savoir que ces gens-là sont venus me voir, puis j'y ai pris goût, puis la mise en scène, j'aime beaucoup ça, et je me suis révélé grâce à eux. Après, il y a eu d'autres personnes, Anthony Cavana, Stéphane Rousseau, Palmade, Laurent Ruquier, Arnaud Gidoin, Claire Jazz, enfin bref, parce que c'était des envies de partager, j'aime bien être au service des autres, j'aime bien fabriquer, j'aime bien aussi être derrière. Alors, mais je ne vais jamais voir les gens pour dire « j'ai envie ». Je suis trop timoré pour ça. Donc ce sont les gens qui viennent me voir. Et en fonction de l'humanité, du feeling, de la capacité à être raisonnable, parce que c'est important, parce qu'il y a des types qui sont très talentueux mais qui pètent vite les plombs, je m'investis dans une aventure artistique.
Et c'est d'ailleurs cette voix du metteur en scène, alors qu'il continue aujourd'hui avec le spectacle After Work.
Voilà, c'est deux petits jeunes, oui.
Comédie sociale, hein, comme ça s'appelle. Voilà. D'ailleurs, c'est un genre que j'adore moi aussi.
Oui, parce que le texte m'a beaucoup plu. En plus, j'ai rencontré les acteurs, je dis, ils sont sympas. Donc voilà, on a bossé presque un mois, ils sont venus à Paris. Et puis,
c'est l'histoire d'un travailleur qui prend en otage, si j'ose dire, son patron, sauf que ça se transforme en une relation, un dialogue.
C'est un rapport de force un peu à la garde à vue entre un syndicaliste et son patron.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et donc, il vient demander une augmentation de toute l'usine. Et en fait, il reste quasiment une nuit entière. C'est le patron qui séquestre. Pour des raisons que je ne vais pas vous raconter, il faut voir la pièce, mais qui sont assez, assez drôles et légitimes. Et c'est une pièce qui a des sujets très très forts, c'est ça qui m'a plu. Il y a du fond et de la forme également. Voilà.
Alors le travail de metteur en scène, c'est quoi? C'est la direction d'acteur?
Direction d'acteur, c'est-à-dire qu'il faut que ça joue juste, faut que ça soit sincère, que ça soit, qu'on y croit.
Ouais.
Après c'est les mouvements, la scénographie, les lumières, tout ça soit cohérent, voilà, qu'il y ait une harmonie totale et que les gens ne sentent pas qu'on est au théâtre, mais qu'on est témoin d'un espace de vie, d'un moment entre deux personnes.
Voilà, et ça c'est au théâtre Les Feux de la Rampe, hein, ça se joue en ce moment avec Jean-Noël Masson et Pascal Miralles dans les deux rôles principaux. Vous avez d'autres projets comme metteur en scène pour les...
Pour l'instant, non.
Les mois à venir?
Non, je m'occupe toujours de Laurent Barra, un jeune humoriste depuis 3 ans. Là, on écrit son second spectacle. Non, pour l'instant, vraiment, je me recentre un peu sur moi-même. Donc là, je suis en train d'écrire un long métrage et une série pour la télévision. Mais moi, j'attends le boulot. Hein. J'adore ça, hein, qu'on me propose des choses.
Ah oui.
Ne soyez pas timide. Hein. Venez me voir. Moi, je suis un acteur de composition. Donc, plus c'est composé, loin de moi, plus j'adore. Voilà, ça c'est dit.
On va passer un petit peu de musique que vous aimez et que vous m'avez même fait découvrir. Là, il s'agit de Naturally 7.
Ah oui, ça c'est de la balle, comme disent les
gens. C'est de la balle. Hein.
Moi, j'ai connu les double 6.
Oui, bien sûr.
Mimi Perrin, voilà, Eddie Lewis.
La grande époque voilà. Donc, c'est du jazz vocal. Quoi.
Jazz vocal.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est mon père qui m'a fait découvrir ça. Donc, j'ai pris goût.
Ouais.
Ses performances vocales. C'est pour ça que j'ai travaillé avec les 5 de cœur il y a quelques années.
Oui, bah justement, je voulais en parler, bah parlons-en maintenant.
Donc oui,
c'est
les 5
aussi
de cœur,
un groupe vocal.
Vocal, ils sont 5. Et
qui est venu vous voir là aussi pour vous demander de
voilà.
les mettre en scène.
Voilà, donc j'ai co-écrit le spectacle avec eux, mis en scène, et j'ai pris un immense plaisir à faire ça. Ils ont fait 2 fois Avignon, bourré à claquer. Et donc là, ils continuent avec Philippe Lelièvre, donc mon collaborateur sur scène dans Non à l'argent et à des variétés, qui les met en scène, donc le hasard de la vie.
Ah oui.
Et donc, j'ai toujours suivi les groupes vocaux. Je suis même allé à Londres, je suis allé à New York, et j'ai découvert dans le métro français, Naturally 7, et je suis allé les voir à Paris, à Boulogne, et depuis je les suis. Voilà.
Comment ça, dans le métro français?
Oui, ils ont fait une espèce de happening dans le métro français il y a quelques années, ça remonte à 6 ans.
Ils faisaient pas la manche?
Non, ils ont investi le métro, ils ont fait une espèce de... Voilà, un événementiel. Ils ont été filmés, c'est passé sur Facebook, sur le net, et puis ça a cartonné. Et j'ai dit, ces gars-là, ils sont... Et moi, j'étais là, ce jour-là, j'étais là, donc coup de bol. Et donc, Naturally Seven, je suis. C'est vraiment formidable.
Comes together, you'll be holding your nose. Hands up, we the band. We ain't plugging it up. Stand up if you can stand. You can't be sitting the rock back up. If not, if you ain't ready to ride, 'cause we going on a tour. Alright, where we going? Fat Fat Boys, way back. That's from the 80s. Fresh like Dougie, inspiration. We were babies. Get up on the stage, we go vocal. They go crazy. We got something for the fellas. This ain't only for the ladies. Ooh wee. Cause you heard that it's vocal. Where you at on the map? It don't matter, we go local. The label wanted commercial, so we had a rehearsal down and get the infomercial. Hold up, wait a minute. You mean that's all with your mouth? Roll up, and we gon' bring it from the north to the south. Hold up, you will never roll like this before. Ain't no sleeping on this tour. Where we going? Fat Fat Boys, way back, that's from the 80s. Fresh like Dougie, inspiration, we were babies. Get up on the stage, we go vocal, they go crazy. We got something for the fellas, this ain't only for the ladies. Ooh wee, ooh wee. The whole groove, that's cool. The last cool connects the hi-hat, next rule. The hi-hat connects you to the snare, here's one.
The snare drum connects you to the big kick drum.
You know the kick drum connects you to the heavy bass note.
And then the bass note connects the 808 all throat. The 808 completes the bottom and the melody seals it.
And now we all come together and we ask, can you feel it?
Naturally Seven, un choix de mon invité Pascal Légitimus qui adore les groupes vocaux et qui, a-t-il dit, en tout cas, mes confrères, aimerait écrire une comédie musicale.
Ah oui, tout à fait.
C'est vrai?
C'est un de mes rêves. Oui. Voilà, avant de passer de l'autre côté, au moins de m'exprimer.
Oh, bah, ça va, on a un peu le temps encore.
Oui, mais on sait jamais. On sait jamais. La prostate, voilà, on sait pas. Voilà.
Non, vraiment. Une comédie musicale, ouais, c'est,
oui,
ça
bien sûr, bien sûr.
Un objectif. Ouais.
Parce que je trouve que c'est un moyen de qui est polyvalent de s'exprimer. Voilà, il y a du chant, de la danse.
Et vous écrivez l'acting. Les paroles, la musique.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je pense pas.
Avec
en
une
tout
bande
cas,
de Légitimus.
Soit la mettre en scène parce qu'on me la proposerait, ou, ouais. Ou moins écrire l'histoire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je laisse le destin œuvrer tranquillement.
Bon bah, on attend ça avec impatience. J'en profite alors pour passer en revue rapidement parce que c'est pas toujours des spectacles musicaux, mais quand même donc quelques grands moments de votre carrière scénique. Il y a eu donc ce spectacle avec Mathilde Amé qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, ça a été
plus
quelque chose d'essentiel, on peut dire.
Oui, tout à fait. C'est mon émancipation, on va dire.
Votre émancipation, ouais. Voilà. Il y a eu également votre premier, ou en tout cas important, one-man show, Alone-man show.
Tout à fait, oui.
Vous dites seul en scène, c'est oui, bien, parce que c'est mieux que one-man show. Vous avez raison, moi qui me bats pour le français. Alors,
c'est pas du stand-up, c'est pas des vannes, c'est un seul en scène,
un
peu
scène.
À la Cobert, en toute modestie, où j'évoque mon métissage arméno-anquillais. Donc je dis que je suis cocasse-cocotier.
Cocasse-cocotier. Bah,
imaginez mes parents, donc imaginez Charles Aznavour couché avec Christiane Taubira, hein. Voilà, ça donnerait un peu ça.
Et j'imagine.
Voilà. Et puis le second spectacle est un vrai donc one man show.
Légitimus Incognitus.
Incognitus. Ouais. Qui est un voilà avec des références aux inconnus parce que je raconte des bribes d'histoire, mais en tout cas ce sont des personnages avec des thèmes forts comme l'homosexualité, Daesh, l'aspect parental, la famille, la musique.
Donc Daesh mais comique.
Ben, oui, vous savez, hein, plus c'est grave, plus c'est drôle.
En fait, tout peut être drôle. En fait, mais c'est pas toujours facile de nos jours, je le redis, de rire
oui,
de tout.
Mais oui, c'est le paquet cadeau qui fait que ça, il faut trouver, voilà, faut se creuser un peu la tête. En tout cas, je parle de Daesh en imaginant le Club Med en Syrie.
Oui, d'accord. Alors ça, c'est dans Legitimus Incognitus qui va reprendre d'ailleurs, hein, c'est un spectacle.
Oui, j'ai 25 dates l'année prochaine, mars-avril, et le 4 avril, je suis pour la dernière parisienne au Folies Bergères.
Voilà. Et puis donc, en ce moment, vous êtes sur scène dans cette autre comédie sociale, hein, on peut dire, c'est toujours
le
même genre et populaire, qui s'intitule
Non à l'argent.
Non à l'argent, c'est aux variétés, ouais. Vous êtes quatre comédiens et c'est très drôle.
Ah oui, c'est très très drôle, mais pas que, parce que c'est très grinçant, c'est très anglais.
Et le sujet là, c'est
En fait, c'est mon personnage qui a gagné 162 millions d'euros, il a le ticket loto du gagnant, hein, gagnant du loto si je puis dire, et puis il les refuse tout simplement. Donc il réunit sa femme, donc Julie de Bonnat, Claire Nadeau, ma mère, et Philippe Lelièvre, mon meilleur ami et patron, et pour leur annoncer, parce qu'ils pensent qu'ils vont accepter. Finalement, c'est la guerre.
Voilà. Ça se passe très mal, quoi.
Ah oui, c'est plus que ça. Toutes les 10 minutes, on ne s'imagine pas à quel point on est toujours surpris de ce qui se passe, parce qu'il y a des rebondissements incroyables. Mais ce qui est amusant, c'est de voir les comportements face à cette décision.
Voilà. Et c'est une pièce de Flavia Coste.
Voilà, une jeune femme de 40 ans qui a du talent. C'est sa première pièce.
Voilà. Et donc, c'est en ce moment au Théâtre des Variétés. Voilà. Ça dure jusqu'au 4 janvier. Ça va évidemment.
Mise en scène par Anouche. C'est bon. Anouche, qui est un prénom arménien, mais elle ne l'est pas. Voilà.
Ah bon, voilà. Il n'y a pas de musique, là.
Non.
Dans le spectacle.
Ici, il y a des petites musiques qui sont égrenées, comme dans un film. Et ça aussi, c'est très intelligent de l'avoir fait. Voilà.
Voilà, donc l'actualité de Pascal Legitimus, mais qui continue aussi à enregistrer des chansons. En tout cas, l'an dernier, vous en avez fait une.
Oui.
Et justement, je l'ai retrouvée sur Internet. Vous nous direz pourquoi c'est seulement d'ailleurs peut-être sur Internet. C'est peut-être un parti pris
tout à fait.
De nos jours. Ça s'appelle Le rap d'un monde qui dérape.
Legitimus 92. Ouais, j'ai des choses à vous dire. Propylène, parabène, collagène. Du gluten cancérigène, j'ai la haine du système, l'atmosphère nucléaire qui remplit nos cimetières. Pharmacie meurtrière, Monsanto milliardaire, maximum télécom, c'est chacun pour sa com. La télé nous déforme, on surconsomme. Ouais, tout décolle. C'est le rap d'un monde qui dérape. Chantez pour vous, c'est ma soupape. Moi je veux donner que du bonheur, dans la joie et la bonne humeur. Dans la bonne humeur. C'est la mer en colère, le cap vert plus très vert. Le coup amer s'accélère, les congénères congénèrent. Les poireaux sont trop gros, les cours d'eau sont crado. Nous prennent pour des blaireaux. On nous joue du comploteur, profiteur, agresseur qui bat le beurre. Les dealers qui ont pas de cœur, toi le violeur tu mets cœur. C'est le rap d'un monde qui dérape. Chantez pour vous, c'est ma soupape. Moi je veux donner que du bonheur, dans la joie et la bonne humeur. Des savants qui ne brassent que du vent, compétents, incompétents, tous pourris pour l'argent. Les patrons des bouffons, pour un oui, pour un non, on nous met des baillons. Y'en a marre des blancs becs qui se la pètent, des élus en compète, des promesses sur la coco, coco, comète. C'est le rap d'un monde qui dérape. Pour vous c'est ma soupape. Moi je veux donner que du bonheur, dans la joie et la bonne humeur. Les affreuses des foules, les fêtes se défilent. Les médias biaisent les foules, le monde est fébrile. J'ai les boules, j'ai les boules, car tout le monde se débine. Les affreuses des foules, les fêtes se défilent.
Mais la boucle est bouclée, Pascal Legitimus. On a commencé avec un rap parodique, on finit avec un rap parodique, c'est pas du tout le même sujet. Hein.
Pas du tout, non, mais bon.
Et c'est pas exactement le même degré de parodie, j'ai envie de dire. Il y a peut-être.
C'est une parodie un peu engagée, personnelle.
Un peu d'engagement dans celle-ci.
Évidemment, c'est mon point de vue, mais toujours avec la sauce inconnue, mais bon,
c'est
mon ADN, évidemment. J'avais envie de m'exprimer sur l'aspect écologique, un peu tendancieux de ce qui se passe actuellement. Et puis la prochaine chanson, qui sera plutôt un peu plus funky, sera sur le handicap.
Ah oui.
Eh oui.
Ce sera pas du, donc du rap, du funk là.
Du
pour
funk,
le coup.
Ouais, bon, ouais.
Donc ça veut dire que vous êtes reparti dans l'idée d'enregistrer régulièrement des chansons, mais de les diffuser plutôt sur le net.
Là, j'ai fait plus de 430 000 vues en 3 semaines. Voilà, donc je l'ai balancé sur le net, mais histoire de créer un peu le buzz et puis de m'exprimer, parce que c'est par là que ça passe maintenant.
Ouais.
Et la prochaine sera peut-être un peu plus médiatisée, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais faire un album d'ici 2 ans avec toutes ces chansons et tous ces clips.
Ah oui, donc voilà, il y a
tous
un projet musical précis.
Tout à fait.
Voilà. À propos d'ailleurs de toutes les paroles qu'on vient d'entendre, j'ai lu, ça fait un peu écho, à votre propos, il mange bio, ne boit pas d'alcool, ne fume pas et se bat notamment contre les OGM et les pesticides. Et
tout à fait, ben oui.
Tout est vrai.
Ben, le respect des hommes et de la nature, quoi, un truc normal.
Voilà,
hein.
Voilà. Oui, ne boit pas d'alcool.
Ah non, ça.
Jamais.
C'est que si je roule une pelle et une fille qui a bu, moi je suis bourré, donc c'est laisser tomber.
J'ai lu aussi vos propos, on vit dans un monde hostile, on respire de la merde, on mange de la merde, on est entouré de gens agressifs, à part ça, tout va bien.
Mais bien sûr, ce n'est qu'un constat, hein. C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas le seul à le penser, mais je le dis, voilà.
Voilà, en tout cas, bah, vous savez nous faire rire avec tout ça, et ça c'est déjà très important, et vous savez aussi d'ailleurs faire aussi rêver, notamment les enfants, avec ce petit conte musical que vous venez d'enregistrer, avec des comédiens, des chanteurs, des musiciens. Ça s'appelle Les Derniers Jours d'Émile. On peut peut-être le recommander. On approche de Noël pour les enfants.
Oui.
Un CD avec un petit album illustré. C'est venu comment ça?
Ben, c'est un copain, voilà. Donc, il m'a contacté. Je lui ai dit oui, parce que faire le narrateur, je trouve ça très, très, très bien. Et puis, de penser aux enfants aussi. C'est-à-dire que l'écho réceptif, il est plus large que les adultes.
Ouais.
Donc, de m'engager un peu comme ça, de faire plaisir aux mômes, c'est très agréable.
Alors vous verriez bien faire des Pierre et le Loup, des Carnavals des animaux, des...
Oui, bien sûr.
Et autres...
J'ai eu fait il y a très longtemps avec Irène Jacob, on a fait un conte pour enfants comme ça, voilà, mais de temps en temps, parce qu'il paraît que j'ai une voix qui peut se transformer, et donc à souhait, donc vous êtes la bienvenue.
Voilà, bah merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Pascal Légitimus, pour évoquer musicalement voilà ce parcours qui est le vôtre, et qu'on va terminer avec un musicien brésilien que vous m'avez fait découvrir encore, alors vraiment avec enchantement.
Ouais.
Mumudinho.
Mais c'est
le Brésil, c'est important dans vos goûts, vos références, j'ai l'impression.
Ah, pour moi le Brésil, bah moi mes premiers morceaux musicaux que j'ai appris à la guitare, c'est des morceaux brésiliens et de jazz via mon père et mon frère Dominique Légitimus, qui lui est toujours musicien. Mais j'avoue que le Brésil, pour moi, il y a des harmonies tellement riches et tellement compliquées que moi ça me crée des
sensations.
Le peu de poils que j'ai sur mon corps et même le poil que je pourrais avoir dans la main, il commence à pousser dès que j'entends du brésilien. Donc voilà, ça me touche et je pense que les spectateurs vont aimer cette chanson qui est très très jolie. Pourquoi j'ai dit spectateurs? C'est marrant ça.
Ah oui.
C'est oui, mais c'est l'habitude. Donc les auditeurs qui nous écoutent.
Oui, voilà.
Et merci de m'avoir accueilli. À très bientôt en tout cas.
Merci Pascal Légitimus. On va vous voir au théâtre dans les jours et les semaines qui viennent. À bientôt.
Só dei valor quando eu te perdi, vacilei. Vem me perdoar, estou perdido. Oh, meu coração quer se vingar de tudo que passou, quer maltratar, me fazer sofredor. Não deixa eu pensar em mais nada a não ser.
vacilé. Pensar em mais nada a não ser nesse amor. Dá um alô, dá uma chance pro amor, pois eu não tô legal. Se a saudade aumentar, vai ser golpe fatal. Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você. Dá um caos.
Momodino qui chantait Mande um Sinal, pardon pour mon accent brésilien. En tout cas, c'était un choix de mon invité aujourd'hui, Pascal Légitimus, que vous pouvez retrouver donc tous les soirs ou presque, vous regardez quand même le programme de plus près, mais c'est au Théâtre des Variétés à Paris dans Non à l'argent, une pièce de Flavia Coste, et ça dure encore au-delà des fêtes. Et puis vous pouvez également retrouver la mise en scène de Pascal Légitimus dans After Work au Théâtre Les Feux de la Rampe.
Thank you.
encore un avant-goût du concert du Nouvel An. C'est une espèce de pot-pourri sur des thèmes de Johann Strauss que vous avez reconnu, des airs arrangés donc par le grand chef d'orchestre Valberg. Vous savez, ce merveilleux chef d'orchestre qui a fait notamment tous les chefs-d'œuvre de Trainet, Avant-Guerre et de tant d'autres artistes. Je vous le signale parce que ça vient de reparaître, cet enregistrement de 1949 avec beaucoup d'autres, dans un double CD chez Marianne Melody. Encore, et oui, la maison qui fait le plus de rééditions passionnantes pour nous aujourd'hui. Ça s'appelle Valberg et son grand orchestre, deux CD avec donc tout le répertoire orchestral de Valberg. Et puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, on va retrouver tout de suite un autre grand chef d'orchestre d'avant-guerre, monsieur Pierre Chagnon, dans une chanson de Milton. On l'a évoqué tout à l'heure, Milton, avec Pascal Légitimus, il nous a dit que son père, Théo Légitimus, avait commencé auprès de ce grand fantaisiste d'avant-guerre, Milton, qu'on retrouve tout de suite donc ici avec Pierre Chagnon, dans une chanson fantaisie, restée dans beaucoup de mémoires, qui s'intitule « C'est pour mon papa ».
J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti. Tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou. Mais elle l'habille papa, oh décrochez-moi ça, l'habit qui ne va pas. C'est pour mon papa, les plus beaux vêtements, c'est pour ma maman. Le livreur, c'est tout le temps pour ma mère. Les factures, c'est tout le temps pour mon père. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Les dessous troublants, c'est pour ma maman. Ses chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, aux trous grands comme ça, c'est pour mon papa. C'est à maman que les gens font toujours de beaux cadeaux. Papa se nigo, ne reçoit que la peau. Tous les ans, le jour de sa fête, maman se fait offrir des choses de prix qui font toujours plaisir. Elle a des objets d'art, des sacs en peau de lézard. Mais papa, chaque fois, faut voir ce qu'il reçoit. Le pot de bégonia, c'est pour mon papa. Mais les gros diamants, c'est pour ma maman. Le plus beau, c'est tout le temps pour ma mère. Le plus moche, c'est tout le temps pour mon père. Le petit agenda, c'est pour mon papa. Les bonbons fondants, c'est pour ma maman. Elle invite tous les gens qui lui font des présents. Mais les frais du repas, c'est pour mon papa. Maman chaque matin fait sa petite balade en auto. Papa se lève plus tôt et se tape le métro. Maman au Fivoclub boit le thé avec ses amis. Elle ne revient pas avant 8h30. Papa ne rouspète pas, c'est lui qui fait le repas. Il reçoit les livraisons et balaye la maison. Faire les œufs sur le plat, c'est pour mon papa. Faire du boniment, c'est pour ma maman. Le tango, c'est tout le temps pour ma mère. Le ballet, c'est tout le temps pour mon père. Faire la soupe au chat, c'est pour mon papa. Se payer de l'agrément, c'est pour ma maman. Quand elle flirte un peu trop avec les gigolos, faire pisser Mirza, c'est pour mon papa.
Et voilà, on parle aussi beaucoup de nos jours des hommes qui persécutent les femmes, mais là c'est plutôt l'épouse qui persécute son mari, comme dans un dessin de Dubout, dans cette chanson de Milton avec l'orchestre de Pierre Chagnon. C'était en 1930 dans le film Le Roi des Resquilleurs, sur une musique de l'excellent Casimir Oberfeld. Je vous ai dit tout le bien que faisait la maison Marianne Melody dans le domaine de la réédition. Il y a aussi bien sûr la maison Frémaux et Associés qui continue son travail excellent dans ce domaine avec un nouveau coffret qui vient de paraître. Ça s'intitule « Chansons exotiques pour cabaret et music-hall ». Et on retrouve là tout un répertoire exotique d'après-guerre. Alors il y a un répertoire parodique, si l'on peut dire, avec des chansons de Dario Moreno, de Jean Constantin, qui font déjà tout un CD. Vous avez aussi un répertoire des pays latins, et notamment des chansons italiennes, interprétées par Sofia Loren, le Quartetto Radar, et tous ces gens qu'on entendait beaucoup dans les années 50 et 60. Et puis vous avez aussi des chansons, je dirais, venues d'Afrique du Nord, très émouvantes parfois, comme cette « Alger » de Lily Boniche, interprétée par la merveilleuse Lina Monti.
«
من وحش الحب بعد افكاري وفراقهم طالع عليا كي نتفكرهم تشعل ناري وين راكم يا ولدي يا غبت عليكم وخليت داري
mais il sait que j'en revanche. Où est-il place du gouvernement? M'amra bahbabi, l'on qu'on gribe et plein de tourments. Rire notre courage sourire. Comment voulez-vous un aman habha? فيها كبروا يمه وبابا de son soleil je ne puis me passer depuis mon enfance neigerai dans ces rues sans me lasser قلبي قلبي en est épris j'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي كم الجزائري كم البال ونحب في الحبال فين نكون ما ننساها الجي شحال نحبها beaucoup de jeunes gens يروحوا et la regrette واحد يدوس والاخر خلى ولدي d'un coup de tête كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة ويتي مون بير وين راك يا ما مون كور ابل إلي مغزي جيم توت لي فيل ان بو بلوس باري لكن ماشي كوم الجزائري كوم البال ونحب في الهبال فاين نكون ما ننسى الجي الجي شحال نحبها
Alger, Alger par Lynn Monti en 1960, une de ses chansons rééditées et rassemblées dans Chansons exotiques pour cabaret et musical, un triple coffret qui vient de paraître chez Frémo et Associés.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis, avant de nous quitter, je voudrais vous signaler la reprise très prochaine à l'Opéra de Rennes et dans toute la région d'une merveille du répertoire lyrique français, un opéra bouffe d'après Molière, Le médecin malgré lui de Charles Gounod. C'est vraiment quelque chose à ne pas rater, une rareté à redécouvrir qui devrait figurer dans tous les programmes d'opéra. Je vous propose d'écouter l'air le plus célèbre de ce petit Gounod. Ils sont doux, qu'ils sont doux, ces petits glouglous. Il nous parle bien sûr de la bouteille.
Qu'ils sont doux. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glouglous, vos petits glouglous. Ah, bouteille, 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 mamie. Ah, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous videz-vous? Mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, vos petits glou-glou, vos petits glou-glou-glou-glou-glou-glou. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux. Aux amants qu'on pousse à bout, l'amour fait verser des larmes, mais ce n'est pas notre goût. Et la bouteille a des charmes qui nous consolent de tout, qui nous consolent de tout. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, bouteille jolie, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, vos petits glou-glou, vos petits glou-glou-glou-glou-glou-glou. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux. Un mari n'a pas toujours tout le bonheur qu'il désire, mais nous avons un secours, et le bon vin nous fait rire, quand on rit de nos amours, quand on rit de nos amours. Ah, bouteille, 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 mamie. Ah, pourquoi? Pourquoi, pourquoi vous videz-vous? Mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, bouteilles jolies. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, vos petits glou-glou, vos petits glou-glou-glou-glou-glou-glou. Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, glou-glou-glou-glou.
Le médecin malgré lui de Charles Gounod, là c'était chanté par Michel Hamel dans un enregistrement de la radio, mais vous pouvez retrouver donc cette œuvre en vrai très prochainement à l'Opéra de Rennes, c'est à partir du 21 novembre, dans une mise en scène de Vincent Tavernier, et l'orchestre sera placé sous la direction de Gildas Pingier. On se quitte avec quelques pages d'un ballet de Donizetti, merveilleux petit joyeux de musique orchestrale trop méconnu. pas de trois, extrait du ballet de La Favorite de Donizetti. Quelle merveille que ce répertoire de ballet dans les grands opéras du 19e siècle. On ne les donne malheureusement jamais en concert et pourtant certaines de ces pages le mériteraient. Heureusement, elles existent en disque ici. L'orchestre Philharmonia en 1979 sous la direction d'Antonio de Almeida. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Alex Billard, Jean-Paul Lafavergès, réalisation Christine Amado. Et bien sûr, on se retrouve samedi prochain, ce sera une joie, une double joie pour moi puisque je recevrai Alain Souchon et son fils Pierre Souchon. Bon week-end à tous sur France Musique. Vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.